Audiolib présente Un cri sous la glace de Camilla Grébeux, traduit du suédois par Anna Postel, lu par Audrey Sourdive. À Estelle et Frédéric. Tu ignores qui est ton ami et qui est ton ennemi jusqu'à ce que la glace sous tes pieds se brise. Proverbe inuit. Peter. Je suis debout dans la neige devant la tombe de ma mère lorsque je reçois l'appel. La pierre tombale est simple, en granit grossièrement taillé, et m'arrive à peine aux genoux. Nous étions en train de réfléchir, ma mère et moi, aux difficultés d'être policier dans une ville où les gens ne s'intéressent plus qu'à eux-mêmes. Et peut-être plus important encore, aux difficultés d'être humain dans une telle ville, par les temps qui courent. Je piétine pour retirer la neige fondue de mes baskets et me détourne de la tombe. Il me semble impoli de parler au téléphone à côté du sépulcre de ma mère. Devant moi s'étend le paysage ondoyant du Skoskurko Gordon, le cimetière des bois. Des traînées de brouillard flottent entre les cimes des pins, dont les troncs sombres jaillissent du sol enneigé comme des points d'exclamation, soulignant le caractère éphémère de la vie. Les arbres goûtent, les pierres tombales goûtent. La neige fondue ruisselle partout. Elle se ferait même un chemin dans mes chaussures de toile fine, entre mes orteils, comme pour me rappeler que je devrais m'acheter ces bottes d'hiver dont j'ai tant besoin que je ne me suis pas encore autorisée à acquérir. Un peu plus loin, j'aperçois des silhouettes obscures qui s'enfoncent dans la forêt de pins. Peut-être sont-elles là pour disposer des lanternes ou étaler des aiguilles de sapin. C'est bientôt Noël. Je fais quelques pas vers l'allée soigneusement déneigée et jette un coup d'œil à l'écran de mon portable, même si je sais déjà de qui il s'agit. La sensation dans ma poitrine ne trompe pas. Ce creux dans l'estomac, ces palpitations, je les connais bien. Avant de répondre, je me tourne une dernière fois vers la tombe, esquisse un geste gauche de la main et marmonne la promesse de revenir. Ce qui est naturellement inutile. Elle sait que je reviens toujours. La route de Nunez Wegen se déroule devant mes yeux, noire et luisante, lorsque je conduis vers le centre-ville. Les phares rouges des voitures scintillent devant moi sur la chaussée, me montrent le chemin. De gros tas de neige sale jonchent le bas-côté, et le long de la bretelle qui va vers Stockholm se dessine un bâtiment bas et si conformiste que c'en est déprimant. Quelques étoiles de Noël éclairent les fenêtres comme des torches au milieu de la nuit. Il a recommencé à neiger. Une bouillie aqueuse et collante qui se pose sur le pare-brise et efface les contours nets du paysage. Tout devient plus doux. On n'entend plus que le bruit des essuie-glaces, mêlé au léger ronron du moteur. Un meurtre. Encore un meurtre. Longtemps auparavant, chez le jeune policier que j'étais, fraîchement nommé à la section homicide, l'annonce d'un assassinat éveillait toujours une sorte de gaieté. La mort était synonyme de mystère qu'il fallait résoudre, démêler comme une pelote de laine enchevêtrée. Car on pouvait toujours élucider l'affaire, la clarifier. Il suffisait d'avoir de l'énergie, de la persévérance et de savoir tirer sur les bons fils au bon moment. La réalité n'était rien d'autre qu'un tissu complexe de ces fils. En résumé, on pouvait la maîtriser, l'ordonner. À présent, je n'en suis plus si sûre. Peut-être ai-je perdu l'intérêt que j'avais pour ce tissu, perdu l'intuition qui me guidait vers les fils sur lesquels je devais tirer. Avec le temps, l'idée de la mort a également pris une autre dimension. Ma mère, qui dort dans la terre détrempée du Skoskurko Gordon. Annika, ma sœur, qui repose dans le même cimetière, à peine quelques mètres plus loin. Et mon père, rongé par l'alcool sur la Costa del Sol, qui ne tardera pas à les rejoindre. Les crimes qui se trouvent sur mon chemin ne me semblent plus aussi importants qu'avant. Bien entendu, je peux aider à découvrir ce qui s'est passé, mettre des mots sur un acte incompréhensible, quelqu'un a été assassiné.